Le journal de Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir à tous. Un risque désormais réalité. L'ONU annonce l'état de famine dans la bande de Gaza, ce que continue de nier Israël. 500 000 de personnes sont concernées par cette famine dans l'enclave, la première officiellement confirmée au Moyen-Orient. Nous irons en Russie, où les prix des carburants s'envolent après les attaques ukrainiennes ciblant les raffineries russes. À la une de l'actualité également La Poste, qui suspend dès lundi l'envoi de colis vers les États-Unis, conséquence du durcissement des règles douanières américaines. Enfin, quand un journaliste se retrouve boycotté d'un rassemblement politique, cela se passe à l'université d'été de la France Insoumise. Après avoir alerté donc durant des semaines, les Nations Unies ont officiellement déclaré la famine à Gaza, où 500 000 de personnes se trouvent dans un état catastrophique d'après ses experts et connaissent le niveau de détresse alimentaire le plus sévère. Cette famine est une première au Moyen-Orient et une réalité que le Premier ministre israélien continue de balayer. Benjamin Netanyahou voit même dans ce rapport de l'ONU un mensonge éhonté. Mais face à ce crime de guerre, tel que le qualifie Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits humains, nous ne pouvons laisser cette situation perdurer en toute impunité, insiste pour sa part le secrétaire général Antonio Guterres, quand Londres parle ce soir de scandale moral. Bonsoir Rosalia MacArthur.
Bonsoir.
Alors cette famine, eh bien les ONG présentes dans l'enclave palestinienne peuvent en témoigner très concrètement. Elles voient en effet la situation se détériorer très rapidement.
Il y a urgence. Action contre la faim, par exemple, soigne de plus en plus d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Vincent Stelly est le directeur des opérations pour ACF Espagne.
Normalement, les aigus sévères, c'est vraiment dans des situations très exceptionnelles. Mais maintenant, on traite déjà beaucoup d'enfants qui sont dans ce niveau-là.
Et ça ne va faire qu'empirer à cause du manque de nourriture, mais aussi de moyens pour les soigner.
On est dans une situation très grave, où il n'y a pas assez de soins médicaux pour faire le suivi, spécialement des enfants malnutris, aigus, avec des complications. Mais en même temps, il n'y a pas suffisamment de produits de traitement qui rentrent.
Vous le disiez, c'est la première fois que le Moyen-Orient est touché par la famine. Jean-Martin Bauer du Programme alimentaire mondial de l'ONU parle même d'une situation historique.
Le système de l'IPC existe depuis plus de 20 ans. Dans cette période de temps, il y a eu une déclaration de famine en Somalie en 2011. Il y en a eu une pour le Sud-Soudan en 2017, suivie d'une autre en 2020. L'an dernier, la famine a été déclarée au Soudan. Et c'est donc la cinquième depuis qu'existe l'IPC, c'est cette famine à Gaza, donc à Gazaville.
D'ici fin septembre, la famine devrait s'étendre vers le sud de l'enclave, à Deir el-Bala et Khan Younes. Plus de 640 000 personnes seront touchées.
Rosalia MacArthur, service international de Radio France. Une famine qui ne freine rien les velléités du gouvernement israélien. Il y a à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le plan destiné à vaincre le Hamas a été approuvé. C'est ainsi réjoui ce matin le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Et face à cette famine à Gaza, face à cette guerre qui dure depuis 22 mois, eh bien les touristes israéliens seraient victimes de discrimination. C'est en tout cas ce dont est accusé le gérant d'un parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales qui a refusé l'accès à un groupe de 150 jeunes israéliens en vacances dans la région. Placé en garde à vue hier, l'homme de 52 ans réfute toute discrimination et invoque un argument de sécurité. Et si l'enquête est toujours en cours, eh bien Bruno Retailleau n'a pas tardé à s'en emparer. Le ministre de l'Intérieur dénonce ainsi ce soir une affaire grave dans un contexte où les actes antisémites sont en train d'augmenter. Après avoir laissé planer un semblant de doute pendant une semaine, la Russie affirme qu'il n'y a pas de rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur la télévision américaine NBC, selon qui le président russe sera prêt à rencontrer le président ukrainien quand l'ordre du jour de ce sommet sera prêt, ce qui n'est pas le cas. De quoi enterrer donc un peu plus la perspective d'un cessez-le-feu alors que Moscou accentue la pression militaire en Ukraine. Tandis qu'en Russie, eh bien, une des conséquences directes de cette guerre menée contre l'Ukraine, eh bien, c'est la flambée des prix du carburant. Des pénuries commencent même à être observées dans plusieurs régions. Après des attaques de drones ukrainiens qui ont visé plusieurs raffineries au début de l'été. Alors le gouvernement russe tente de prendre des mesures, tient des propos rassurants, mais Sylvain Tronchet, certains experts s'inquiètent.
Ces derniers jours, des files d'attente parfois interminables se sont formées devant les stations-service du sud de la Russie, de la Crimée ou en Extrême-Orient, dans la région de Vladivostok. Et partout, les automobilistes constatent l'augmentation des prix. Conséquence, des cours de l'essence et du diesel qui battent des records à la bourse de Saint-Pétersbourg. Le gouvernement russe a tenté d'enrayer le phénomène en interdisant les exportations de produits pétroliers raffinés cet été, mais cela semble insuffisant. Depuis le début du mois d'août, au moins 7 raffineries russes russes ont été visés par des drones ukrainiens dans la partie européenne du pays. Selon les experts, entre 10 et 15% de la capacité de raffinage de la Russie serait indisponible et les réparations sont compliquées en raison des sanctions et du manque de pièces détachées. À cela s'ajoutent des problèmes logistiques, des trains de carburant ont également été visés, mais aussi l'oléoduc Droujba dans l'ouest du pays. Du coup, les livraisons de pétrole russe à la Hongrie et la Slovaquie, qui en achètent encore, sont suspendues pendant au moins plusieurs jours.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Culture. L'augmentation des droits de douane américains devrait toucher directement les particuliers en Europe. Un décret de l'administration Trump pris le 30 juillet dernier prévoit que l'ensemble des colis soient désormais soumis à des droits de douane, y compris donc les colis dont la marchandise est inférieure ou égale à $800, qui étaient jusqu'ici exonérés de taxes. Or, à l'instar de la Deutsche Post en Allemagne, eh bien la Poste en France s'apprête à suspendre elle aussi les envois depuis la France vers les États-Unis et ce dès lundi. C'est ce que vous avez appris, Valentin Grille.
La Poste s'inquiète du manque de transparence américain et de possibles surcoûts. Dans le détail, c'est un décret publié le 30 juillet dernier par la Maison-Blanche qui pose question. Les colis devront faire l'objet d'une nouvelle taxe de $80 pour chaque article provenant d'un pays où les droits de douane américains sont inférieurs à 16%, c'est le cas pour l'Europe et ses 15%, jusqu'à $200 pour les articles venant de pays affectés au-delà de 25%. Plus handicapant, les petits colis de $800 ou moins en valeur voient leur régime spécifique disparaître, car ils étaient jusqu'ici exemptés de frais. Or, qui devra payer les nouvelles taxes, la Poste ou l'expéditeur? Pour quel montant? Quelles données devront être transmises à l'administration américaine? Autant d'incertitudes face auxquelles la Poste dit temporairement stop. Elle emboîte le pas à l'Allemagne, la Belgique ou encore la Pologne. Les petits colis représentent la majorité des colis envoyés outre-Atlantique, 1,6 million par an en France en moyenne. 80% viennent d'entreprises. D'ailleurs, pour les particuliers, l'agence publique maintient une exception pour les colis dont la valeur ne dépasse pas 100 euros. Pour les États-Unis, il s'agit d'une nouvelle étape dans une démarche d'isolationnisme. Des décrets similaires ont levé cette année les régimes spécifiques du Canada et du Mexique que Washington accuse de mal réguler le trafic d'opioïdes. Et en 2018, Donald Trump avait déjà sorti le pays de l'Union postale universelle, chargé de réguler les échanges. Il accusait alors la Chine de déséquilibrer le système avec des millions de petits colis, le tout aux frais de la Poste américaine qui les distribuait.
France Culture, il est 18h07 et la rentrée politique qui se poursuit à gauche avec celle de la France Insoumise et de son leader Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime en ce moment même depuis Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme où la France Insoumise organise ses amphis, son université d'été. Jean-Luc Mélenchon qui se réjouit à l'instant de la présence des journalistes à ce rassemblement, plus de 70 accrédités et ce, même si tous les journalistes ne sont apparemment pas les bienvenus. LFI a en effet refusé d'accréditer le journaliste du journal Le Monde, Olivier Perroux, co-auteur du livre Enquête La Meute, portant sur les méthodes du mouvement. De son côté, la France Insoumise se justifie et accuse le journaliste de diffamation et d'avoir inventé de fausses informations dans son livre. Mais les sociétés de journalistes de nombreux médias, dont celle de Radio France, y voient ce soir un coup de semonce pour la profession et dénoncent dans un communiqué commun une atteinte grave au droit d'informer. Écoutez, Isabelle Mandreau, elle est la vice-présidente de la Société des rédacteurs du journal Le Monde.
Notre journaliste a fait son travail, a vérifié ses informations et il a fait un travail journalistique, comme beaucoup de journalistes le font quand ils font aussi des livres. C'est pas ça qui est en cause pour LFI. Ce qu'ils ont lu ne plaît pas à M. Mélenchon. Très bien, mais s'ils ont le droit, encore une fois, de critiquer, ils ont le droit de ne pas l'aimer, ils ont même le droit de poursuivre en justice ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, il n'y a rien de diffamatoire, tout est sourcé, tout est avec des sources internes. Bien sûr, ça ne plaît pas à M. Mélenchon, mais c'est pas, notre but n'est pas de plaire ou ni de déplaire. Notre but, c'est de faire un travail. C'est sans précédent pour nous au journal Le Monde, mais ça a déjà concerné par le passé d'autres rédactions, mais avec un autre parti, c'était plutôt jusqu'à présent l'apanage de l'extrême droite. Là, dans le contexte de recul aujourd'hui de la démocratie, qui touche parfois la liberté de la presse, c'est un nouveau problème qui apparaît et qui concerne encore une fois, pas seulement Le Monde, mais tous les journalistes. Si un parti, sur une réunion qui est ouverte à la presse via des accréditations, se met à refuser un journaliste parce qu'un article, un livre ou autre chose ne lui plaît pas, c'est la porte ouverte, en fait, après, à ce qu'ils choisissent les journalistes qu'ils veulent voir en face d'eux. C'est inadmissible.
La police nantaise annonce renforcer ses patrouilles nocturnes après une série de violentes agressions homophobes survenues dans plusieurs parcs de la ville et de sa périphérie ces derniers jours. La dernière agression remonte à mercredi soir dans le parc de la Crapaudine, au sud de Nantes. Une recrudescence de guet-apens face à laquelle les forces de l'ordre ont donc lancé un appel à la vigilance. Marion Fersing.
Oui, parce que les agressions de ce type se multiplient depuis le début de l'été avec toujours le même mode opératoire. Un rendez-vous fixé via une application de rencontre, en l'occurrence Grindr pour celle-là, et qui se transforme en guet-apens. C'est comme ça qu'un homme d'une trentaine d'années s'est fait rouer de coups par deux personnes cagoulées qui lui ont attaché les jambes et l'ont dépouillé, son téléphone, sa carte bancaire pour aller retirer de l'argent. Alors ces dernières semaines, la police a arrêté deux hommes pour de précédentes agressions. Elle a renforcé les patrouilles la nuit dans les parcs qui sont connus pour être des lieux de rencontres homosexuelles, mais ce n'était pas le cas de celui de la Crapaudine. Les forces de l'ordre recommandent donc de bien vérifier l'identité de la personne avec qui on a rendez-vous, en faisant un appel en visio avant par exemple, parce qu'il est très facile de prendre n'importe quelle photo sur internet pour se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Marion Fersinghi, Loire-Océan. L'Arcom condamne avec force le choix de la plateforme Kick, qui a levé le blocage de la chaîne du streamer Jean Pormanoff, de son vrai nom Raphaël Gravène, mort en début de semaine en direct vidéo sur cette plateforme. Sa chaîne avait été suspendue dans la foulée, mais ses vidéos, y compris celles le montrant violenté et humilié, ont été de nouveau mises en ligne quelques heures, Thomas Pontillon.
Eh bien, l'entreprise australienne a expliqué à l'Arcom que c'était pour elle le seul moyen de répondre aux demandes des autorités françaises qui veulent avoir accès aux images, notamment pour savoir s'il y a eu des manquements dans la modération de la plateforme. Mais selon le régulateur du numérique en France, l'Arcom, ces vidéos auraient pu être transmises autrement, sans être remises en ligne. Ce choix montre que les dirigeants de Kick ne mesurent pas la gravité des récents événements déplorés en début d'après-midi. L'Arcom, qui réclamait donc le blocage à nouveau de la chaîne dans les plus brefs délais, les dirigeants de la plateforme sont visiblement revenus sur leur choix pour suivre la demande de l'Arcom puisque la chaîne de Jean Pormanoff est à nouveau inaccessible ce soir.
Et Thomas, que sait-on des propriétaires de Kick ?
Eh bien, il s'agit de deux Australiens, Ed Craven et Bijan Terani. Ils sont tous les deux trentenaires et milliardaires. Leur fortune personnelle est estimée à 2,5 milliards d'euros chacun, selon le magazine Forbes. Leur plus grand succès, c'est Stake, un site de jeux d'argent qui ressemble à un casino en ligne où l'on peut parier à soit de l'argent, soit des crypto-monnaies. Le site, dont le chiffre d'affaires est de plusieurs milliards d'euros par an et qui s'est même offert une voiture en Formule 1 à ses couleurs, est pourtant interdit dans plusieurs pays dans le monde. C'est le cas dans la plupart des pays européens, notamment en France, où l'autorité nationale des jeux l'a bloqué dès 2021 parce que les casinos en ligne sont interdits dans notre pays.
Les explications de Thomas Pontillon quant aux causes du décès de Raphaël Gravène, eh bien des analyses complémentaires, notamment toxicologiques, sont encore en cours pour les déterminer. C'est une annonce pour le moins étonnante dans le monde de la tech. L'entreprise américaine Meta va dépenser plus de 10 milliards de dollars chez Google pour utiliser ses services de cloud, pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance, hébergés dans des centres de données pour stocker, gérer, traiter les données. L'objectif de la maison mère de Facebook, eh bien, c'est entraîner ces modèles d'IA générative. Mais au lieu de le faire dans ses propres data centers, Meta choisit donc d'externaliser cette tâche chez l'un de ses principaux concurrents. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
C'est une transaction qui en dit long donc, sur la stratégie de Mark Zuckerberg, le patron de Meta.
Oui, une stratégie défendue par Mark Zuckerberg mi-juillet. Son objectif, c'est de développer, vous l'avez dit, une intelligence artificielle qui surpassera toutes les autres. Pour cela, il a déjà commencé à mettre son plan à exécution en recrutant d'abord plusieurs cerveaux débauchés chez ses concurrents OpenAI ou encore Anthropic. La deuxième étape, c'est maintenant de développer cette nouvelle IA. Et pour ça, il faut plusieurs choses. Des infrastructures de calcul pour entraîner les modèles, construire aussi des centres de données et tout ça, eh bien, ça prend du temps. Meta dispose déjà de plusieurs data centers, mais la maison mère de Facebook a besoin de plus encore. De nouveaux centres de données sont actuellement en construction, mais le premier ne sera prêt qu'en cours d'année prochaine, le second en 2030. Alors entre-temps, pas question pour Mark Zuckerberg de prendre du retard par rapport à ses concurrents, d'où l'idée de faire appel au centre de Google déjà existant, quitte à payer le prix fort et à perdre une partie de son indépendance. Le contrat a été signé pour une durée de 6 ans. Le pari de Meta, c'est qu'à terme, son IA générative permettra de réaliser des profits suffisants pour éponger ses investissements. Un geste spéculatif, preuve, s'il en fallait encore d'autres, de l'emballement autour de l'IA générative qui, pour l'instant, on le rappelle, est loin d'être rentable. D'après une étude du MIT, 95% des projets IA en entreprise échouent à générer des revenus.
Les explications de Jeanne Serrin pour France Culture. La météo demain avec le retour du soleil sur la plupart des régions, excepté sur un petit tiers nord de l'Hexagone, après dissipation des nuages présents au réveil au nord de la Seine et aux abords des massifs. Les températures resteront encore fraîches, comprises entre 7 et 11 degrés en moyenne le matin au nord, 10 à 15 au sud. Entre 21 et 28 degrés sont attendus l'après-midi et jusqu'à 30 près de la Grande Bleue. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Microbeck.